En tout cas, je suis vraiment heureux. Merci à l'équipe pastorale de m'accueillir ce matin et vous, à vous aussi de m'accueillir. Vous avez eu la joie d'avoir un de mes professeurs dimanche dernier, un ami et quelqu'un qui compte pour moi aussi, Daniel Lischti. Et je vais essayer d'aller dans le prolongement de ce qu'il vous a partagé en allant un peu, en vous partageant un peu ce que j'essaye d'appliquer dans l'implantation dans laquelle je suis. On a démarré il y a 3 ans une implantation d'église à Freneuse. Donc à l'ouest de Mantes, pour ceux qui connaissent. On a démarré avec 6 personnes et on est parti vraiment de zéro en se disant on ne veut pas être influencé par notre héritage, notre tradition d'église, et on veut simplement se connecter à la parole, voir ce que l'église primitive vivait, tout en contextualisant ce qu'on, dans le contexte dans lequel on est plutôt, parce qu'on n'est pas dans le même contexte que les apôtres à l'époque, mais de voir quels sont les grands fondamentaux qu'on peut reproduire ici même, en France, en 2023, dans une société qui est complètement sécularisée, qui s'éloigne de plus en plus du religieux. Et je crois que c'est important pour l'Église de se questionner là-dessus. Alors, la pensée de ce matin, je l'ai intitulée de missionnaire à missionnel. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai tendance, des fois, à être un peu brutal, un peu brutus dans ma façon d'apporter les choses. Alors si je vous brutalise un peu par mes paroles, veuillez m'en excuser, n'hésitez pas à la fin à venir me voir pour que je puisse vous expliquer si je suis un peu trop... Ça va? Ok. J'aimerais qu'on commence par la lecture d'un texte très connu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, et on va lire du verset 16 à 20. C'est un texte très connu de la parole et qui, selon moi, doit motiver le quotidien de nos églises. Alors, on va reprendre des choses que vous avez peut-être déjà entendues dimanche dernier, peut-être des choses que vous avez déjà entendues lors des prédications de vos enseignants, de vos pasteurs. Mais on va essayer de réfléchir ensemble sur comment être une église missionnelle d'un point de vue pratique et concret. Alors, Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pardon, pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous connaissez cette parole, cette belle parole du Christ, qu'on cite souvent pour encourager les gens à aller évangéliser, non? Et quand on lit ce texte, en réalité, on lit clairement l'appel missionnel et non pas missionnaire de l'Église. Prenons quelques minutes pour nous rappeler, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, ou pour découvrir ce que ça veut dire missionnel. Missionnel, ce n'est pas un simple synonyme de missionnaire. Il s'agit de deux concepts qu'il faut distinguer l'un de l'autre. Missionnaire et missionnel, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Missionnaire désigne la mission en tant qu'activité. Il s'agit du faire d'une personne, c'est ce qu'on fait. C'est une activité missionnaire. On envoie des missionnaires, des gens qui vont faire une œuvre missionnaire. Alors que missionnel désigne la nature. Il s'agit de l'être, de l'identité d'une personne ou d'une église. Et je crois que l'aspect missionnel doit être premier. Il est supérieur à l'aspect missionnaire. En gros, missionnaire va impliquer simplement un événement ou une activité. Je fais quelque chose pour Dieu, je fais une activité missionnaire, et c'est une bonne chose. Hein, je ne suis pas en train de révolutionner hein, ou de dire qu'être missionnaire, c'est mauvais. Mais missionnel va toucher à notre identité et va toucher à toutes les sphères de ce que nous sommes et de ce que l'on fait. Ça va? Vous voyez la distinction entre les deux? C'est vraiment important de comprendre ça. Et Daniel Lischti, que vous avez eu le plaisir d'entendre la semaine dernière, il a écrit un article dans un livre de Timothy Keller, un super livre qui s'appelle « Une église centrée sur l'évangile », et lui, il donne une autre définition de l'église missionnelle. Il dit qu'une église missionnelle, c'est une église où chaque activité, chaque département de l'église est intentionnellement tourné vers l'extérieur, s'attendant à ce que des non-chrétiens soient présents. De leur côté, les chrétiens engagés reçoivent le soutien qui est nécessaire à leur ministère dans le monde. Alors, en soi, dans le fond, on est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord pour dire que l'Église doit être intentionnellement, dans sa globalité, tournée vers l'extérieur. C'est vrai. On est tous d'accord pour dire qu'en tant que disciples de Christ, nous devons avoir pour objectif et pour priorité même d'être tournés vers l'extérieur. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'Église doit vivre un double mouvement, et peut-être que Daniel vous en a parlé déjà. Un mouvement centrifuge, on doit aller vers l'extérieur. L'Église doit avoir un impact extérieur, une influence extérieure, mais elle doit avoir aussi un mouvement centripète. Elle doit se rassembler. C'est ce que Pasteur André partageait avec cette Église rassemblée et cette Église dispersée, et on va y revenir parce que c'est une donnée importante. Et je crois que c'est la bonne articulation et la bonne interaction entre ces deux dimensions du fait d'aller à l'extérieur et de se rassembler régulièrement qui caractérise vraiment ce qu'est l'Église missionnelle. L'Église missionnelle, c'est l'Église qui comprend que l'Église ne se résume pas simplement au rassemblement des croyants. L'Église, ce n'est pas juste qu'on est là aujourd'hui. L'Église, ce n'est pas simplement 2 heures le dimanche matin, le rassemblement d'un groupe de personnes. L'Église reste l'Église quand elle est au contact à l'extérieur, de personnes qui ne sont pas en contact avec Dieu. Il y a comme un mouvement constant. L'Église missionnelle ne concentre pas ses efforts sur les activités ecclésiales du dimanche matin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'efforts à faire pour le culte, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le temps de vivre le culte, c'est une donnée importante puisque l'Église doit se rassembler. Nous ne devons pas concentrer tous nos efforts là-dessus. Et en réalité, l'Église missionnelle, ce n'est pas un nouveau concept. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, j'ai un cours d'histoire de l'Église à la fac de Théo, et on nous explique que souvent, il y a eu des nouveaux concepts qui ont émergé au sein même de l'Église pour révolutionner l'Église ou quoi. Là, ce n'est pas du tout ça. L'Église missionnelle, c'est simplement l'Église primitive. Simplement de comprendre que l'Église primitive était missionnelle et non pas missionnaire. L'Église, ce n'est pas seulement de se réunir de temps en temps en semaine et de temps en temps faire des programmes d'évangélisation pour comme se déculpabiliser de faire des disciples. Comprenez-vous ? L'Église doit être missionnelle. Ça dépasse nos réunions du dimanche. Maintenant que ce cadre il est posé, là j'ai simplement peut-être repris ce que Daniel vous a partagé dimanche dernier, je crois qu'il faut poser un constat maintenant. Et ce constat, c'est qu'en tant qu'Église aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, de mon vécu, ça fait 15 ans que je suis chrétien, ça fait 10 ans que je suis dans le ministère, et ce que je constate, le constat que je pose, c'est que l'Église a énormément de mal à atteindre les gens qui nous entourent. Je suis, je vous le dis, c'est pas bien, mais je suis extrêmement jaloux du témoignage de celles et ceux qui nous ont précédés. Je suis jaloux des réveils spirituels. J'ai faim et soif de ça. Et je constate que, aujourd'hui, l'Église a énormément de mal à atteindre les gens qui nous entourent. Combien de nos voisins, aujourd'hui, sont venus à l'Évangile ? Il y a un pasteur, j'ai plus le nom, américain aux États-Unis, qui, alors qu'il était pasteur, il s'est posé cette question. Combien de mes voisins, aujourd'hui, sont au Seigneur ? Parce qu'il avait compris cet aspect missionnel de l'Église. L'Église, ce n'est pas simplement le dimanche. Je suis l'Église au quotidien, 24 heures sur 24, même quand je dors, je suis l'Église. Même quand je suis aux toilettes, je suis l'Église. Et il s'est posé cette question. Combien de mes voisins, aujourd'hui, sont à Christ ? Alors il a concentré tous ses efforts, non pas à rendre le culte beau, bien que c'est une bonne chose, et certains sont appelés à ça, et certains ont des dons pour ça, certains ont des dons de louange que je n'ai pas, et qui permettent à ce qu'on puisse vivre un beau culte, et comprenez bien que je ne suis pas en train de remettre en cause ça. Ça va ? Mais ce pasteur-là, il a compris qu'il y avait une dimension qui était encore supérieure à ça, plus que d'être missionnaire. Plus que de se réunir à un moment dans la semaine. Je suis l'Église tout le temps. Alors il a commencé à être l'Église tout le temps. Il a commencé à prendre soin de ses voisins. Il a commencé à être un témoin, une lumière. Et au bout de 15 ans, tout son quartier venait à l'Église. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu sa maison, il a déménagé dans un autre quartier, il a recommencé. Et je suis agent immobilier, donc ça m'arrange. Mais lorsqu'on regarde l'Église primitive, on constate que c'était ça. Que c'est quand même assez différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Quand j'étais pasteur jeunesse et pasteur associé dans l'église dans laquelle j'étais avant, j'étais comme troublé par l'écart que je constatais entre ce que j'avais le sentiment de vivre, alors que je prêchais, alors que je prenais soin des gens, alors que j'étais dans le ministère, l'écart que je constatais entre ma vie et la vie des apôtres, des disciples. Tiens, un truc qui ne va pas, on a raté quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à étudier les actes des apôtres. Et que j'ai découvert que l'Église primitive était missionnelle. Alors j'ai commencé à... J'avais à cœur d'implanter depuis que je me suis converti. Alors j'ai décidé, lorsqu'on allait implanter, J'ai rencontré l'équipe qui allait implanter avec moi, on était 6, et je leur ai dit, on ne va pas implanter une église normale. Les gens, ils vont pas nous trouver normaux. Les gens vont avoir beaucoup de mal avec nous, surtout les gens qui sont habitués à l'église. Et on va être missionnel. On va pas du tout concentrer nos efforts sur le dimanche matin. On vit des cultes, hein, à l'heure là, il y a l'église dans laquelle je suis, ils sont en train de vivre un culte, et ils vivent un culte exactement comme le vôtre. On se réunit, on loue, il y a une prédication, mais c'est tout. Et le rôle de l'église, le rôle du dimanche, c'est d'équiper les croyants à être missionnels. Vous ne venez pas ici pour être l'église. Vous venez ici pour être équipés afin d'être l'église en dehors. Comprenez-vous? Et on va aller un peu plus loin. L'église, en tant que communauté de disciples, est le peuple à qui Dieu confie la mission de partager sa bonne nouvelle. Vous savez qu'on sera bien mieux avec le Christ? Je ne vous apprends rien. On sera tellement mieux avec le Christ. Pasteur André, il n'aura pas son problème d'oreille là. Il sera bien mieux, on sera bien mieux avec le Christ. Alors pourquoi on reste ici? Vous savez, une fois, je me suis posé la question, pourquoi je reste ici? Pourquoi l'Église, pourquoi lorsqu'on se convertit, Dieu ne nous prend pas tout de suite? Parce que Dieu a décidé de nous rendre participants dans le salut. Alors notre mission, pourquoi on reste ici, ce n'est pas simplement de réussir dans la vie, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle église et une belle famille. Ce n'est pas de mauvaises choses, hein. J'ai une maison, j'ai une famille et je prends soin de ça et je suis content de les avoir. Mais la mission première pour laquelle je suis sur terre, c'est pour faire des disciples. C'est ce qu'on a lu dans Matthieu 28. Et si j'oublie ça, ou si je m'en rappelle que le dimanche matin à 10h30, alors je rate quelque chose. La mission de l'Église, c'est de partager la bonne nouvelle du Christ au quotidien. Une église doit donc rayonner de l'évangile de manière visible et tangible quotidiennement. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de chacun d'entre vous dans son quotidien. Partout où vous êtes des représentants de l'église. Vous êtes l'épouse que Christ s'est rachetée à la croix. Et notre mission première, votre mission première, c'est d'être des témoins partout où vous êtes. Et cela, pas seulement en parole, pas seulement le dimanche matin, pas seulement lorsque vous mettez votre beau costume ou votre belle robe pour venir écouter la prédication de vos enseignants ou de vos pasteurs, mais aussi par un témoignage de vie qui rend honneur au Christ au quotidien. Et Jésus n'a pas été ambigu du tout sur le sujet. Ce que j'aime avec le Christ, c'est qu'il est direct, il est droit, il ne cache rien. Et dans Matthieu 7, versets 21 à 23, on lit ces paroles. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qui sont ceux qui appartiennent au Christ, ceux qui font la volonté de Dieu? Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, que nous avons parlé au nom de Dieu? Par ton nom que nous avons chassé des démons? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Et verset 23, « Alors je déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Il y a comme un contraste que Jésus vient donner. Il vient comme mettre une limite entre la religiosité et la vraie foi. L'église missionnelle, c'est l'église de la foi. Rester dans le missionnaire, c'est rester dans la religiosité. L'évangile, c'est plus que te faire des activités de temps à autre. C'est être l'incarnation même de cette mission. Nous sommes appelés à être l'incarnation de Matthieu chapitre 28. Nous sommes appelés à être l'incarnation. Les gens doivent voir en nous cet appel missionnel du Christ. Et je crois qu'il faut vraiment nous rendre à l'évidence aujourd'hui. En France, l'église a vraiment du mal. On a du mal. C'est difficile aujourd'hui pour l'Église d'être l'Église en France. L'Église a comme perdu de sa puissance. Je suis le seul à voir ça? Le Saint-Esprit est-il moins puissant? C'est une question que je vous pose. Est-ce que le Saint-Esprit est moins puissant? Non. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse, elle est réelle. Le Saint-Esprit est le même qu'à l'époque des apôtres. Et nous croyons que sa puissance est la même et qu'il veut agir encore. Dieu est-il moins présent aujourd'hui? Non plus. Matthieu 28:20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors c'est quoi le problème? Quel est le problème de l'Église aujourd'hui? C'est l'Église. C'est pas Dieu, c'est pas l'Esprit, c'est pas la parole. C'est pas le manque de présence de Dieu. Dieu est partout. Dieu est en nous. Dieu est toujours puissant. Alors pourquoi l'Église est moins puissante? Alors moi, loin de moi, vraiment l'idée d'avoir la prétention de ce matin de répondre à cette question parfaitement. Loin de moi l'idée de vous faire la morale, comprenez bien. Simplement de faire prendre conscience On est peut-être en train de manquer quelque chose dans notre génération. Et je crois qu'on doit se poser certaines questions qui dérangent un peu, bon, les pasteurs surtout. Je sais que je ne vais pas les déranger avec ça, parce que j'en ai déjà parlé avec pasteur André, mais comment on mesure la croissance d'une communauté ? Comment on mesure si une communauté est avec le Christ et est dans cet aspect missionnel ? Est-ce que c'est par la taille de la salle ? Est-ce que c'est par le nombre de chaises occupées ? Alors vous allez me dire non. Eh bah, bien, quand même. Les actes des apôtres montrent que la croissance d'une église comprend toujours une composante numérique. Quand on lit les actes, on a une composante numérique. Et je crois que si on est honnête avec nous-mêmes aujourd'hui, il faut qu'on regarde à cette composante numérique. Non pas qu'on ait des commerciaux, bien que j'en suis un, non pas qu'on est là pour faire du chiffre, mais lorsqu'on se compare à l'église primitive, il manque quelque chose. Il nous manque cette donnée numérique. Les actes des apôtres montrent que la croissance d'une église comprend toujours cette composante numérique, même si des moments de stagnation peuvent intervenir. L'église des actes des apôtres, elle a vécu des moments où ça a stagné. Et on ne sait pas pourquoi. Dieu est souverain. Et tout n'est pas mesurable. Mais l'absence de fruits dans l'évangélisation, dans la mission, doit nous conduire à nous poser des questions. Et ce n'est pas vous que je vise aujourd'hui. Hein. Je vise l'église avec un grand E en France et dans la francophonie et en Europe. Aujourd'hui, il y a comme un combat entre le sécularisme et l'église et la foi. Cette idée de vouloir séparer la religion de tout le reste. Alors que Christ, lui, nous dit que bah, notre foi, elle touche tout le reste. Elle touche toutes les sphères. Il y a toutes ces questions, un de mes professeurs de missiologie, c'est pas Daniel, à la faculté disait que, selon lui, parce que je lui ai posé la question, tu es missiologue, tu as étudié la missiologie, tu étudies la mission, tu étudies la croissance d'église, alors j'ai une question pour toi. Pourquoi on a du mal en France ? Et selon lui, il disait que trop d'églises se sont éloignées des personnes vivant dans la société. Elles sont devenues comme transparentes, inaudibles et peu crédibles aux yeux de nos contemporains. En d'autres mots, l'église s'est repliée sur elle-même. Et lorsque les gens se tournent vers le Christ, la première chose que l'on fait, c'est qu'on les inclut dans la communauté et on les coupe un peu du monde extérieur. Je n'ai pas prévu de vous parler de ça, mais quelques mots de mon témoignage, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Quand je me suis converti suite à une tentative de suicide, parce que dans mon entourage, j'avais des amis qui n'étaient pas très fréquentables et qui m'ont poussé, et je me suis poussé aussi dans la petite délinquance. Et lorsque le Christ est venu me chercher, les pasteurs ont eu un peu peur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont inclus dans la communauté. Alors je me suis converti, ils m'ont baptisé 2 semaines après, au cas où je repartais, on ne sait jamais. Ils m'ont inclus dans la société et ils m'ont invité à couper tout contact avec mes anciens amis par peur que je retombe et que je sois tenté de retomber. Et je comprends leur démarche, parce que je l'ai faite aussi avec d'autres jeunes. Sauf que c'était une erreur. 1 an après ma conversion, je lis dans le journal qu'un groupe de jeunes à Bréval, je ne sais pas si ça vous parle, pas très loin d'ici, a fait un braquage d'une poste. Et ils se sont fait attraper, arrêter. Et je lis ça comme ça, je ne fais pas attention. Sauf qu'un jour, on m'appelle et on me dit que ces jeunes-là, c'était mes amis. C'était les gens avec qui que je fréquentais avant. Et j'apprends qu'un de ces jeunes s'est suicidé suite à ça. Et je vous avoue que ça m'a profondément marqué, profondément brisé le cœur. Alors, je suis parti voir mes pasteurs et on s'est disputé. j'ai pas eu la bonne réaction, mais je leur ai reproché. Et au final, on a fait la paix. Et au final, ils m'ont invité à reprendre contact avec eux. Vas-y, essaye ce que tu veux faire. Parce que lorsque je voyais le Christ, les gens décidaient de le suivre et puis ils les envoyaient tout de suite en mission. Alors j'ai repris contact avec mes amis, ça ne s'est pas fait facilement, je vous avoue. Et aujourd'hui, 3 de mes amis sont à Christ. Pas parce que je suis un bon chrétien ou pas parce que je suis un super évangéliste, pas du tout. Mais parce que je suis rentré dans le mandat missionnel que Christ m'a donné. Quand on y réfléchit, la lumière, elle frappe nos yeux dans l'obscurité. Si aujourd'hui, avec la lumière, vous avez une belle luminosité, je donne une lampe de poche chacun, on allume la lampe de poche, il n'y aura pas trop d'incidence. Par contre, si on se met tous dans le noir et qu'une personne allume sa lampe de poche, cette personne sera visible et elle va donner envie à ceux qui l'entourent d'avoir une lampe de poche. Bon, l'image, elle est... Mais vous comprenez l'idée. Mais la mission, c'est exactement pareil. Vous êtes appelé non pas à rester entre lampes de poche. On est après allé là où bah, il y a l'obscurité. Vous connaissez la parabole du déodorant ? Non ? Ah, c'est pas une parabole de Jésus, hein. C'est une parabole de Kevin. L'église, c'est comme un déodorant. C'est plein de petites bonnes particules qui sont dans une boîte, mais qui est appelée à sortir de la boîte pour aller là où ça sent pas bon. Et l'église missionnelle, c'est exactement ça. On n'est pas appelé à rester dans une boîte où ça sent bon. On est appelé à aller là où ça sent pas bon. Et c'est ça l'église missionnelle. L'évangélisation classique, comme nous pouvions le vivre il y a des dizaines d'années. Ça marchait il y a 10 ans, il y a 30 ans. Une évangélisation événementielle, dans le sens où on fait simplement des événements d'évangélisation et hop, c'est bon. Les gens se convertissent. Dans l'église où je suis, l'implantation dans laquelle je suis, on ne fait pas d'évangélisation. Et pourtant, en 3 ans, on est passé de 6 à 40. Pourquoi ? Justement parce qu'on ne fait pas d'évangélisation. C'est paradoxal. En tant que pasteur, je leur ai interdit d'organiser des soirées d'évangélisation, des sorties d'évangélisation. Vous voulez l'évangéliser ? Go ! N'organisez pas. Ne rendez pas ça institutionnel. On est en train de se catholiciser. Vous savez que l'Église catholique, elle descend quand même de l'Église primitive, hein ? Et on est les premiers à les critiquer. Mais apprenons de leurs erreurs. Je ne suis pas anti-institution, hein. Je crois que l'Église a une donnée institutionnelle. Mais elle ne doit pas prendre le pas sur la donnée missionnelle. Alors là où je suis, ce n'est pas parfait. Je ne suis pas sûr que les cultes, vous les trouverez waouh. Les prédications, vous les trouverez sûrement un peu piquantes, des fois. Il y a de l'humour. Par contre, chacun a conscience qu'il est missionné pour partager l'évangile. Alors, on a des collègues de travail, de nos frères et sœurs qui viennent, des fois. On a des gens de famille, on a des voisins qui viennent. Des fois, ils repartent sans accepter l'évangile. Mais ce n'est pas nous qui transformons les cœurs, c'est l'esprit. Nous, simplement, on fait la mission d'inviter, d'appeler et d'être des témoins. Mais quand on y réfléchit un peu, à ce problème d'église, ça va ? Ok. Ça va, je ne suis pas trop dur, là. Ok, super. N'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi... on fait ça et je suis à l'aise avec ça. Mais quand on y réfléchit, c'est assez logique que ça soit difficile en France et en Occident. L'histoire et la sociologie, je fais une fac de théo, donc il faut que je mette un peu de sociologie et d'histoire quand même, nous montre que nous ne sommes plus en terre chrétienne. Et ça, je ne vous apprends rien. La France était une terre chrétienne, nous ne sommes plus en terre chrétienne. C'est la sociologie qui le dit, ce n'est pas moi. Les gens ne sont plus du tout familiers à la foi chrétienne. Ils ne sont plus habitués à aller à la messe le dimanche. Ce n'est pas habituel pour les gens d'aller dans des réunions d'évangélisation. Ma génération ne veut pas de ça. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer. Tout est un bon moyen de partager l'évangile. Et si vous avez des réunions d'évangélisation, continuez, ce n'est pas le problème. Mais si l'évangélisation se résume simplement à ce moment-là, alors vous ratez quelque chose. Et vous n'aurez que trop peu de résultats. Vous aurez peut-être vos enfants qui vont se convertir, et gloire à Dieu. Peut-être que vous aurez de temps en temps quelqu'un qui va arriver et qui sera à l'aise avec ça, ou qui viendra d'une culture à l'aise avec ça. Mais les voisins qui nous entourent aujourd'hui ne viendront peut-être pas. Le fait d'être dans une culture chrétienne, ce qui était très présent il y a des années, assurait en soi un cadre qui était productif pour l'évangile. Un terreau qui était adéquat pour que la puissance de l'esprit se manifeste à travers l'Église. Et maintenant, je crois qu'il est désormais indispensable d'essayer de recréer la confiance avec les gens en valorisant les relations et non pas l'institution. Il faut, j'en suis persuadé, que l'Église soit équipée afin de devenir une Église missionnelle. Et cela en s'appuyant encore plus qu'avant sur la puissance de l'esprit. On a perdu cette réalité-là. Je vous pose une question, répondez pas. Et ce n'est pas de la moralisation, je ne suis pas en train de vous comprenez. Hein. Je vous pose juste une question pour vous faire réfléchir. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas prié pour un malade ? Pourquoi ? Parce qu'on a perdu cet aspect missionnel. On prie pour les malades à l'église. Ça, on n'a pas de souci parce que le cadre, il nous rassure. Et on est dans un confort un peu à l'église, faut le dire. On est bien. Moi, j'étais super bien accueilli. J'avais envie de louer ce matin. Et on a envie de prier. Quand j'ai entendu que pasteur André, il avait mal, j'avais envie de prier pour lui. Et quand le pasteur Oscar s'est mis à prier, on a tous prié pour les sujets de prière. C'est facile de prier à l'église. Mais lorsqu'on est au dehors, lorsqu'un collègue est malade, lorsqu'un membre de notre famille est malade, lorsqu'un voisin a besoin et vit des difficultés, avez-vous l'audace de prier pour eux? Croyez-vous que le Saint-Esprit agit encore en 2023? Alors qu'est-ce qui nous empêche de prier pour les gens? Ça, je me le dis à moi-même, hein. Je me le rappelle chaque semaine. Vous savez, hier, j'ai fait une mission d'intérim la semaine dernière pour aider quelqu'un dans une salle de sport. Je vais à la salle, mais ça ne se voit pas, mais je vais à la salle. Et j'ai rencontré quelqu'un, une dame, une coach, qui arrive. Alors, je ne l'ai pas écrit, donc je vous raconte un peu brouillon, mais. Et cette dame était très forte, elle était en surpoids. Et elle me dit qu'elle est coach de CrossFit. Je dis, ah, ok, et puis elle pense que je la juge, alors que pas du tout, je m'en fiche. Je suis gros et je fais du sport. Donc je comprends, il n'y a pas de souci. Mais elle se sent un peu attaquée, vous voyez? Elle se sent attaquée par mon regard, alors que vraiment, j'avais aucun. Alors peut-être que, voilà, peut-être que je dois travailler sur mon visage. Mais ça ouvre une discussion avec elle. Et là, je vois que cette dame, en fait, elle est très sensible sur peut-être son identité ou quoi. Et là, elle m'explique pourquoi elle a des problèmes de poids. Elle me dit, bah, en fait, je prends des hormones. Ah, ok. Pourquoi tu prends des hormones? Je suis en train de changer de sexe, elle me dit. Ah. Ça nous met mal à l'aise en tant que chrétien, non? Ouais, très mal à l'aise. On ne devrait pas. Pourquoi on devrait être mal à l'aise face au péché? Le péché devrait être mal à l'aise face aux chrétiens. C'est pas l'inverse. Et alors, avec beaucoup d'amour et d'empathie, je lui explique que je suis pasteur. Alors là, ouh. Ah! Mariage pour tous, hein? Oui, c'est pas ça le sujet. Et là, je lui parle simplement de l'amour de Christ. Pendant une demi-heure, elle m'écoute. J'ai l'impression que je fais un monologue. Et là, d'un coup, elle se met à pleurer. C'est pas parce que je lui ai parlé. C'est pas parce que j'ai des talents d'oratoire ou je ne sais quoi. Simplement parce que l'Esprit a honoré mon audace de parler de l'Évangile. C'est pas converti, elle n'a pas décidé de revenir en arrière, mais il y a eu au moins une parole qui a été semée. Puis elle est partie derrière pendant une demi-heure et je l'ai laissée pleurer. Puis ensuite elle est revenue, j'ai demandé si je pouvais prier pour elle, elle a accepté et j'ai prié pour elle et ça s'est arrêté là. Alors elle n'en voulait pas plus, j'ai vu qu'elle voulait plus parler, je garde contact avec elle et je prie pour elle et je prie que le Seigneur vienne et lui montre que son identité c'est la bonne identité. Mais tout est une occasion. Dieu nous donne des occasions. Si vous vous mettez à disposition de Dieu, oui, c'est pas confortable. Oui, on n'est pas à l'aise. J'étais pas à l'aise hier soir. J'étais pas confortable, je vous garantis. En plus, je suis pasteur, je peux me prendre un procès. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais l'évangile est plus important. Le salut de cette femme est plus important que de la honte ou de l'inconfort que je peux supporter. Elle, c'est un inconfort éternel. Pour pas dire des souffrances éternelles qui l'attendent. Et je ne peux pas rester demain face à ça. Et je sais que c'est difficile, et je suis pas en train de vous donner, je suis pas en train de vous faire la morale, comprenez bien. Mais juste qu'on prenne conscience du pourquoi Jésus nous a appelés, pourquoi Jésus nous a sauvés, pourquoi il nous laisse là où nous sommes. Il y a des gens comme cette dame qui sont en train de mourir. Peut-être que demain, elle va vivre un accident et cette femme va mourir. Et j'aurais été peut-être la seule personne qui aurait pu lui partager l'évangile. Et combien de fois j'ai laissé passer des gens sans leur parler de l'évangile parce que ça me coûtait et ça coûtait à mon confort. Lisez les actes des apôtres. C'était inconfortable d'être un disciple de Christ. C'est inconfortable. Si vous êtes confortable dans votre vie chrétienne, alors il faut se poser la question. Ça va? J'aimerais continuer. Il me reste combien de temps? Midi 20? Ok. J'aimerais vous donner quelques conseils fondés sur la parole pour être une église qui passe d'un modèle d'évangélisation, d'un modèle missionnaire, à un modèle missionnel dont je vous parle depuis tout à l'heure et dont Daniel vous a parlé. Un modèle qui produit une multiplication à l'image de l'église primitive. La première chose, c'est soyez. C'est un impératif que Christ nous donne. Soyez. Soyez missionnels, la croissance qualitative, quantitative de l'Église passera avant tout par la formation de véritables disciples de Jésus-Christ capables d'engendrer à leur tour des disciples. La stratégie de Jésus, et vous l'avez vu, je crois, il y a 2 semaines, c'est le discipulat. La stratégie de Jésus, ce n'est pas de descendre du ciel d'un coup et de se révéler à tout le monde en disant « Suivez-moi ». Sa stratégie, c'est de passer par vous, par moi. Et que chacun d'entre nous puisse rentrer dans le mandat missionnel et faire des disciples. Faire des disciples implique que ce disciple fasse à son tour des disciples. Cette femme que j'ai rencontrée hier, je prie qu'elle devienne une disciple qui elle-même fera des disciples après. L'évangile de Matthieu, que certains considèrent comme un manuel de discipulat, nous montre des choses très intéressantes. On voit Jésus appeler ses premiers disciples et leur dire « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes ». Matthieu 4, 19. Et je crois que certains sous-estiment la portée de cet exemple, en pensant que cela n'est qu'une méthode d'évangélisation. Faire des disciples, c'est une des activités de l'Église. Non, non, non. Faire des disciples, c'est l'activité de l'Église. C'est pas juste faire des temps d'évangélisation de faire des disciples. Faire des disciples, c'est pas simplement se reposer sur les ministères de l'Église pensant que c'est eux, à travers leur prédication, qui vont amener les gens à la foi. Ils nous font tendre à une culture de discipulat. Et c'est quoi une culture de discipulat? J'aimerais vous l'expliquer en 6 points faciles à retenir, et ça c'est Daniel Lichty qui me l'a enseigné. Tout ce que je suis, c'est mon témoignage. Tout, même jusqu'à quand je suis sur les toilettes, je dois être un témoin de Christ. Mon lieu de vie, c'est mon champ missionnaire. Les gens qui sont autour de moi, c'est mon ministère. Je dois prendre soin des gens qui sont autour de moi. Le Saint-Esprit, et je dis ça d'une manière un peu vulgaire, sans le limiter, c'est ma force et ma capacité. C'est la source dans laquelle je puise la capacité à faire ces choses-là. Le rejet dont je suis parfois l'objet, parce qu'on va être rejeté. C'est mon quotidien que je dois accepter. Et c'est, je crois, la chose la plus difficile à accepter pour l'Église. Et la dernière chose, ma motivation pour faire ces choses-là, c'est l'amour du Christ pour moi et pour ceux qui m'entourent. Une culture de discipulat, c'est quand les chrétiens considèrent leur vie comme je viens de les décrire. Que les chrétiens voient leur vie à travers ces différents prismes. Face à ces 6 points, comment vous vous positionnez ce matin? À cause de l'absence d'une culture de discipulat dans nos églises, nous croyons qu'un disciple est une sorte de petit chrétien à qui on partage l'évangile, qui va faire une belle petite prière et qu'on va intégrer à la communauté, il va donner sa dîme, il va prendre la Sainte-Seine et c'est tout! Non. Vous savez, j'ai un problème avec les prières de repentance. On va peut-être faire débat, mais... Souvent, on fait de l'évangélisation et puis on fait prier les gens. Prie, donne ton cœur à Jésus. Vrai ou faux? C'est vrai. Et puis on se base sur Apocalypse 2, Jésus frappe à la porte de l'église, bah Jésus frappe à la porte de ton cœur. C'est vrai, non? C'est pas biblique, hein? Apocalypse 2, Jésus frappe pas à la porte du cœur d'un incroyant. Apocalypse 2, c'est la lettre aux églises. Jésus frappe à la porte d'une église qui ne fait pas et qui ne rend pas ses comptes à Dieu. On ne doit pas inviter les gens à laisser Jésus entrer dans leur vie ou dans leur cœur. On doit inviter les gens à laisser leur cœur pourri pour que Jésus vienne lui donner un cœur de chair. Et des fois, on invite les gens à une prière de repentance qui est bonne. Ça peut... Enfin, comprenez bien, je ne suis pas en train de remettre en cause ça totalement. Il y a une prière de repentance, il y a une repentance qui s'exprime par la bouche. Et oui, on doit accepter Jésus dans notre cœur et c'est une image pour dire qu'on l'accepte dans notre vie. Mais trop souvent, on a limité le discipulat à ça en disant si la personne, elle fait une prière où elle dit qu'elle accepte Jésus dans son cœur, c'est fini. Non. Repends-toi et maintenant, suis le Christ. C'est ça l'appel de Jésus. Ce n'est pas juste de laisser Jésus rentrer dans sa vie. C'est toi d'abandonner ta vie pour suivre le Christ. C'est un message qui est différent, qui coûte plus, mais c'est un message qui apporte la multiplication. On présente Jésus comme quelque chose, comme une aumône. Accepte Jésus dans ton cœur. On parle du roi des rois, du seigneur des seigneurs quand même. Bon, Jésus, ok, je t'accepte dans mon cœur, je te fais une grâce. Non, non, il te fait une grâce de pouvoir abandonner ta vie et le suivre. Comprenez-vous? Le message de l'évangile, il n'est pas... Tout le monde n'aime pas entendre les messages de l'évangile. Il est inconfortable. Et on essaie de le rendre confortable, pensant que les gens vont mieux accepter. Mais le problème, c'est que ça produit des disciples qui ne sont pas réellement des disciples. Et qui ne se reproduisent pas. Ou plus. Maintenant, si vous voyez dans les paroles que je suis en train de dire, ne paniquez pas. Il y a une grâce. Repentez-vous, suivez le Christ. C'est pas une mauvaise chose d'amener les gens à être des chrétiens dans l'église, de prendre la Sainte-Seine et tout. C'est une bonne chose. Je prends la Sainte-Seine, je donne mon offrande, je fais partie d'une communauté et je vous invite à le faire, à rester et à continuer. Et ça fait partie, je crois, de la vie d'un disciple. Nous devons prier simplement que le Saint-Esprit vienne corriger notre vision du discipulat. Que nous puissions développer une culture du discipulat centrée sur l'appel missionnel du Christ. Jésus commence son ministère en mettant l'accent sur le discipulat. Il dit « Suivez-moi, mettez-vous en marche. Vous êtes en relation avec moi, abandonne tout ce que tu as et suis-moi. » Le discipulat n'est pas une méthode de plus, il est au cœur de l'œuvre de Dieu, de la stratégie de Dieu. Et de même, à la fin de l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus, on l'a lu, termine son ministère encore avec ça. Il commence en leur disant « Suivez-moi. » Et puis il termine en les envoyant encore. Être un disciple, faire des disciples, développer une culture de discipulat au sein de nos églises n'est pas une option. C'est une nécessité à l'heure où des gens meurent chaque jour sans le Christ. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais vous savez qu'on passe 3% de notre temps réunis en église. On a fait un calcul à la fac. Et le temps où on passe ensemble en église, ça représente 3% de nos temps quotidiens. C'est peu, hein? C'est-à-dire que 97% du temps restant, on est en église dispersée. 3% église rassemblée, 97% église dispersée. Et si on considère que l'évangélisation se passe principalement le dimanche matin, alors on sacrifie 97% de notre temps et du temps que Dieu nous donne. Nous devons considérer cet appel à être des disciples, à faire des disciples et à développer une culture de discipulat. Non pas en le limitant à nos réunions d'église rassemblée, mais en le vivant en église dispersée. La deuxième chose, c'est sortez. Après, soyez, sortez. Pas de l'église. Comprenez bien. Lisons la deuxième chose qu'il nous faut prendre conscience. Jean 4, 31-38. Pendant ce temps, les disciples lui disaient « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir mon œuvre. » Ne dites pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson. Eh bien, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Amen. Ce texte, il fait suite à l'épisode qu'on a lu tout à l'heure avec notre frère de la femme samaritaine et du fait que Jésus ouvre le salut en dehors des Juifs. Et les Samaritains, ce n'était pas simplement des voisins des Juifs. C'était un peuple qui était considéré comme des ennemis par les Juifs. Pourquoi ? Parce que c'était les Juifs qui étaient restés lors de l'exil en terre juive et qui s'étaient un peu mélangés avec d'autres religions, avec d'autres nations. Et ce qui est intéressant au passage, c'est que la femme samaritaine, Jésus lui dit qu'elle a combien de maris ? 5. Et l'histoire, d'un point de vue historique, on voit que les Samaritains se sont mélangés avec 5 nations étrangères. C'est intéressant, hein ? Jésus était prophétique. Et les Samaritains, c'était des ennemis. Et on ne va pas faire l'exégèse de ce texte, mais pour Jésus, les Samaritains, qui étaient des ennemis, étaient un champ missionnaire, un champ prêt pour la moisson. Et il n'hésitait pas à parler avec des Samaritains. Avec une femme samaritaine en plus, au puits de Jacob. Jésus parlait à des personnes qui ont faim de l'évangile. Il faut qu'on dépasse et on surpasse les a priori qu'on a des gens. J'aurais pu hier ne pas parler à cette femme, en me disant, elle est un peu ennemie des chrétiens. Et elle l'est clairement. Et elle nous considère comme des ennemis. Mais on doit outrepasser ça et faire comme notre maître. Lorsque les disciples renversent de la ville où Jésus les avait envoyés acheter des vivres, eux, ils s'étonnent de le voir parler à une samaritaine. Mais Jésus, lui, ne se préoccupait pas de ce que disaient les autres. La seule chose qui lui importait, c'était d'accomplir la volonté du Père. Quand les disciples interrogèrent, Jésus leur dit « Mais ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Laissez Dieu vous libérer de vos préjugés. Et voyez le monde différemment. Voyez le monde comme un champ missionnel. » Et parfois, les chrétiens, on est un peu comme des paysans qui surveilleraient la moisson de l'intérieur. La moisson, elle est prête. Les champs sont prêts, mais nous, on reste à l'intérieur et on regarde par la fenêtre. Ils pensent que leur communauté, on pense des fois, que notre communauté doit gérer ce qui existe à l'extérieur, à l'intérieur, ce qui est déjà dans la grange, et que le reste concernant l'extérieur concerne que quelques spécialistes qu'on va envoyer comme ça. S'ils reviennent, c'est bien. S'ils ne reviennent pas, bah, c'était leur mission. Hein. Cependant, je crois que la moisson, elle se trouve à l'extérieur. Elle concerne tous les disciples sans exception. Et aujourd'hui, les champs sont blancs en France. Les gens ont besoin plus que jamais de l'évangile. L'esprit, je crois, est disposé plus que jamais à agir à travers l'Église en France. Dans le cadre où on est à l'aise, dans notre foyer, dans notre communauté, dans notre lieu de travail, avec nos voisins, nos amis, dans le train. Le Saint-Esprit veut agir. Et la deuxième chose à faire pour devenir une église missionnelle, c'est d'arrêter de mettre l'évangélisation et le discipulat, vous l'avez compris, dans une boîte préconçue. Nous sommes tous appelés à être des lumières et des ambassadeurs de l'évangile. Comment ? En sortant une fois par mois pour faire de l'évangélisation avec des flyers ? C'est fini, ça ne marche plus. Vous avez essayé ? J'ai essayé, je vous dis. Ça ne fonctionne que trop rarement. Si certains sentent que le Saint-Esprit les pousse à faire ça, faites-le. Parce que j'ai un frère à l'église qui fait ça, il le fait très bien. Mais lui, il a un ministère d'évangéliste, pas moi. Et lui, les gens se convertissent lorsqu'ils sont dans la rue. Vraiment, il a vraiment un ministère. Mais moi, je ne l'ai pas et on ne l'a pas tous. On n'est pas tous appelés à réduire notre évangélisation à la prédication dans la rue. Mais on est tous appelés à faire des disciples. Être un disciple, c'est être au contact du pécheur qui a besoin de l'évangile. J'accélère. On a vu ce que ça impliquait pour l'individu dans son quotidien, mais qu'est-ce que cela change pour la communauté ? Là, on a vu l'individu en tant que personne. Je vous invite à sortir et à être des agents du missionnel. Je crois que l'Église ne doit plus considérer l'évangélisation comme étant un département. Là, on va parler vraiment de choses d'Église. Et je prends un risque, hein, parce que peut-être que l'équipe là... Mais je m'excuse, mais je prends le risque. Ils ont fait le choix de m'inviter. L'évangélisation ne doit pas être un département ou une activité réservée à quelques-uns. Une église missionnelle, c'est une église qui a choisi de faire du discipulat et de l'évangélisation le moteur de toutes ses activités. Dans l'église dans laquelle je suis, tout ce qu'on fait, à chaque fois qu'on prend une décision pour un projet ou quelque chose, c'est « Ok, est-ce que ça va permettre de gagner des gens ?» On se réunit le dimanche, « Ok, est-ce qu'on peut gagner des gens à travers ça ?» Oui, on le fait. Ok, on a des groupes maisons. Eh bien, on va faire des groupes maisons mixtes. Daniel vous en a peut-être parlé. Ça produit du fruit. Tout ce que je le fais pour faire des disciples. Quand je prends soin des gens de l'Église, des chrétiens, des croyants qui sont là peut-être depuis quelques années, je prends soin des gens dans le but qu'ils puissent continuer à faire des disciples et répondre au mandat missionnel de Christ. Et je suis motivé par quoi ? Par l'amour. Parce que je les aime et je sais que la meilleure chose pour eux, c'est de rentrer dans ce mandat-là. Et l'Église, elle s'organise afin que toutes nos activités contribuent à l'évangélisation. Et là, les chrétiens sont alors véritablement équipés. L'Église, lorsqu'on se réunit le dimanche, ça ne doit pas être la vitrine de l'Église. Lorsqu'on réunit le dimanche, c'est un moment où vos pasteurs vont vous équiper justement pour être des vitrines au quotidien. Les 3% du temps où vous passez du temps ensemble, soyez là les uns pour les autres, priez les uns pour les autres, afin qu'on puisse continuer encore la mission. Seigneur, donne-nous un jour de plus. Seigneur, donne-nous encore une âme en plus. Dans les 97% du temps qu'il nous reste, on a besoin d'être équipés. Et ça se passe à l'église, avec vos pasteurs et vos enseignants. Mais aussi les uns avec les autres. Être une église missionnelle, c'est ne pas avoir plus d'activités, bien au contraire. Je vous avoue qu'à l'église, nous, on a limité, on a deux activités d'église. Le dimanche matin et les groupes mixtes. C'est tout, j'ai rien de plus, rien de moins. Les groupes mixtes, les groupes maisons. J'ai que ça. Par contre, j'invite les gens à être relationnels au maximum. C'est-à-dire que toute la semaine, des chrétiens se réunissent les uns chez les autres, sans que ça passe par le pasteur, sans que ça passe par moi. Jésus est le grand pasteur de son église. Le Saint-Esprit prend soin de son église. Et les gens se réunissent, prennent soin les uns des autres, et je vois du fruit. Quand je vous dis qu'on est passé de 6 à 40, c'est vraiment pas parce que je suis un bon pasteur, je vous le garantis. Je me considère vraiment comme un mauvais pasteur. Parce que je suis un planteur d'église, je suis plus un planteur que pasteur. Et vous comprenez dans ma prédication que je ne suis pas toujours très pastoral, et je m'en excuse, et je fais des efforts, et l'Esprit de Dieu agit avec moi quand même. Mais c'est parce que les gens qui composent l'église sont missionnels. Ils prennent soin. J'ai une église pastorale, ce que j'aime leur dire. Ok, je suis votre pasteur, mais vous êtes pastoral. Prenez les soins les uns des autres. Visitez-vous. Allez vous voir. Un frère ne vient plus, j'ai pas besoin de le dire. Les gens y vont naturellement. On a plein de défauts. Ah, chez nous, ils sont comme ça, je vous dis. Hein. J'ai un frère, une fois, il est rentré dans une mosquée salafiste pour partager l'évangile. Hein. Vraiment. Il est fou. Mais je le bride pas. Quand il m'a dit ça, tout le monde était en panique. Je dis, mais super, continue. Oui, mais bah, tu meurs, tu es avec le Christ. J'exagère. Mais vous comprenez ? C'est pas très pastoral, ça. Mais vous comprenez l'idée qu'il y a derrière ? Dieu a donné des dons et des talents. Et ce frère-là, il a un don. Il a vraiment un don d'évangéliste que j'ai pas. Moi, je vais dans une mosquée salafiste, on me dégomme. Mais lui, il a un don. Je suis qui, moi, pour dire à cet homme-là de pas faire ça, alors que l'Esprit lui-même l'appelle à faire ça ? Soyez pastoraux, soyez pastoral. Oula, une minute. Si nous désirons que les chrétiens, lorsqu'ils sont en mode dispersé pendant... Je peux continuer encore 5 minutes ?
Oui, super.
Pendant les 97% de leur semaine, créent des amitiés. La première prédication que j'ai entendue à la fac de Vaud, ça m'a convaincu de rester, parce que la théologie, ça fait peur au début, hein, mais c'est super bien. Ce n'est plus l'impur qui contamine le pur, c'est le pur qui contamine l'impur. Et Jésus, c'est ce qu'il enseigne. On va plus être contaminé par l'impur. Je vous ai libéré du péché. Et moi maintenant, à mon tour, à travers vous, le pur va venir guérir l'impur. C'est ce que Jésus enseigne. N'ayez pas peur de l'impureté. N'ayez pas peur de l'impur. N'ayez pas peur d'être en contact avec des gens qui ont des mauvaises vies. Jésus l'a fait, il nous appelle à le faire. N'ayez pas peur d'être en contact avec vos collègues. Soyez amis avec eux. Prenez soin d'eux, aimez-les. Même si ça vous rejette, même si on se moque de vous, même si on est dur avec vous. Moi, on m'appelle le curé au travail. C'est pas grave. Appelle-moi le curé. On m'appelle le cul béni. Désolé, mais c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est pas grave. Je t'aime quand même. Mais il voit une différence. N'ayez pas peur d'être au contact de l'impur. Parce que en Christ, vous êtes pur. Et en Christ, vous êtes contaminant. Vous êtes contagieux. Vous êtes contagieux en Christ. Je crois qu'il faut que tout soit réfléchi, pour ne pas dire tout inspiré par l'Esprit, afin que les gens d'extérieur se sentent concernés par ce que nous faisons et par ce que nous sommes. Mais si les gens ne viennent pas le dimanche, comment ils vont être concernés par ce qu'on fait et par la foi ? Bah, à votre contact, au quotidien. Arrêtez d'essayer de faire venir les gens le dimanche. Soyez une lumière, les gens viendront tout seuls. Vraiment. Et ils viendront et vous ne serez pas un fardeau pour vos pasteurs, parce qu'ils vont venir et ils seront déjà des disciples. Pasteurs, ils vont venir, ils vont faire les trucs de les cours de baptême et tout, et hop, baptisé, terminé. Hop, envoyé, et puis ça va se multiplier tout seul. Comprenez-vous ? Pour terminer, j'aimerais juste aussi vous rappeler que le résultat de la mission ne dépend pas de vous et de moi. Ça dépend du Saint-Esprit, seulement de l'Esprit. Nous ne devons pas nous sentir écrasés par la tâche. Nous avons une mission, sortir notre confort et partager l'Évangile tout le temps, partout, en toute occasion. Peu importe ce que ça nous coûte, partout. Soyez intelligents. Dieu a renouvelé nos intelligences, d'accord ? Moi, le frère dont je vous parle, des fois, il n'était pas très intelligent. Il réfléchissait pas. Il le dit lui-même, hein, c'est pour ça que je vous le dis, hein, c'est pas une critique. Et c'est un frère que j'aime vraiment, c'est devenu vraiment un ami. Mais des fois, stratégiquement, il y a des stratégies à avoir. Vous voyez, si vous êtes dans un contexte où il n'y a que des gens qui sont pro-LGBT, bah, faites attention à comment vous parlez. Vous voyez, la dame d'hier, je ne lui ai pas dit « Oh, je suis anti-mariage homosexuel. » C'est pas là que je l'ai amené, la dame. Parce que le cœur du sujet, le cœur du problème, il n'est pas là. Le cœur du problème, c'est le péché qui est en elle. Et la solution, c'est Christ qui est en moi. Demandez au Saint-Esprit de vous donner des stratégies missionnelles, que vous puissiez être missionnel partout où vous allez. Ma seule mission, c'est d'obéir à l'Esprit. Et voyons ça comme quelque chose d'extraordinaire. Je suis convaincu que le Saint-Esprit fera éclater sa puissance lorsque l'Église entrera dans le mandat que Jésus a laissé à son Église. Et je le vois au quotidien, et je suis sûr que là où je suis, j'en suis qu'aux prémices de ces choses-là. Et je crois que plus je vais grandir, plus on va grandir dans l'Église dans laquelle je suis, dans cette identité missionnelle, de l'Église primitive simplement, alors je crois que le Saint-Esprit fera de plus en plus éclater sa gloire. Et je vous invite vraiment à le faire. Ne restez pas dans une boîte. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche. C'est facile pour moi de vous le dire, sûrement qu'on ne vous verra peut-être plus. Donc je peux me permettre de le dire, mais ne soyez pas des chrétiens du dimanche. Vos pasteurs vont tout faire pour vous équiper. Maintenant, soyez et sortez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.